14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Si vous êtes venu par les airs, vous prendrez à l'aéroport le motoscafo que les Vénitiens appellent abusivement Vaporetto. Ou si c'est dans vos moyens, carrément le bateau-taxi, ça c'est encore mieux. Et vous approcherez par le nord de cette île qu'est Venise, au milieu de sa lagune, en longeant Murano et San Michele. San Michele, c'est un îlot à angle droit qui est le cimetière de la ville. Et puis, vous ferez le tour de l'île par l'est en longeant la langue de sable du Lido à main gauche. Vous dépassez à ce moment-là l'îlot de San Giorgio Maggiore jusqu'à ce que vous ayez en face de vous le plus somptueux de tous les panoramas d'architecture du monde. De gauche à droite, la douane de mer, la Dogana di Mare, et l'église de la Salute, qui marque l'entrée du Grand Canal, l'hôtel de la Monnaie et la haute tour du Campanile, la Piazzetta avec ses colonnes surmontées des statues de Saint-Marc d'un côté et du lion ailé de l'autre, le palais des Doges avec sa grande façade vénéto-byzantine et puis les prisons des plombs, celle de Casanova avec le fameux pont des soupirs, et puis la longue et belle Riva Delizia Voni jusqu'à l'église della Pietà et au-delà. C'est une possibilité, on débarquera vos bagages sur le ponton de la Pensione ou de l'hôtel. Cependant, il existe une autre façon d'aborder ce grand vaisseau de pierre, de plomb, de marbre et de mosaïque. Et c'est par le train. En traversant la lagune, sur l'unique pont reliant la cité insulaire au continent, le pont de la Libertà, conçu par les Autrichiens et achevé au milieu du XIXe siècle. La gare San Lucia a été conçue par les Autrichiens, elle se trouve donc sur le Grand Canal même, ce qui fait qu'en sortant de la gare, vous serez d'emblée comme ça à pied d'œuvre, au sommet de cette artère d'eau en forme de S inversée qui traverse Venise de part en part. Vous serez, si vous préférez, au bout de ces Champs-Élysées aquatiques bordés de palais magnifiques et que je vous propose de parcourir tranquillement en gondole jusqu'à la Cadario qui nous attend là-bas, nimbée de ses mystères. Alors, si vous flânez un moment autour de la gare, vous avez toutes les chances de vous perdre, de vous égarer totalement dans un embrouillamini de ruelles et de petits canaux, d'un silence presque total, incroyable, et puis tout à coup, vous tomberez sur une trouée lumineuse qui vous attire, et là, d'un coup, vous prendrez en pleine face le bruit, l'agitation, la majesté tonitruante de ce grand canal qui n'est jamais loin. Laissez-moi citer Marcel Proust, si j'arrive à trouver le petit extrait, c'est dans Albertine disparue, évidemment. Voilà ce qu'écrivait Proust le soir. Je sortais seul au milieu de la ville enchantée où je me trouvais au milieu de quartiers nouveaux comme un personnage des mille et une nuits. Il était bien rare que je ne découvre pas au hasard de mes promenades quelques places inconnues et spacieuses dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. Je m'étais engagé dans un réseau de petites ruelles, de calli. Comprimées les unes contre les autres, ces calli divisaient en tous sens de leur rainure le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semble que dans la matière cristallisée se soit produite une distension. Un vaste et somptueux campo, un campo, c'est une place, de qui je n'eusse assurément pas dans ce réseau de petites rues pu deviner l'importance, s'étendait devant moi, entouré de charmants palais, pâles de clair de lune. Le lendemain, je partais à la recherche de ma belle place nocturne. Je suivais des calli qui se ressemblaient toutes et se refusaient à me donner le moindre renseignement, sauf pour m'égarer mieux. Parfois, un vague indice que je croyais reconnaître me faisait supposer que j'allais voir apparaître dans sa claustration, sa solitude et son silence, la belle place exilée. À ce moment, quelque mauvais génie qui avait pris l'apparence d'une nouvelle calle me faisait rebrousser chemin malgré moi et je me trouvais brusquement ramené au Grand Canal. Nous allons y rester sur ce grand canal dont Philippe de Comines, bien avant, dès le Moyen-Âge, écrivait « Le grand canal est la plus belle rue que je crois qui soit en tout le monde et la mieux maisonnée et qui va tout le long de la ville. » Eh bien, nous allons nous suivre ce grand canal depuis la gare d'où nous partons. Donc cette gare, elle s'appelle Saint-Lucia parce qu'elle est à l'emplacement de l'ancienne église Sainte-Lucie, qui a été démolie donc pour lui faire place. On entre tout de suite là dans un des 6 quartiers de la ville. Les quartiers de Venise, on les appelle les sestieri. En dialecte vénitien, c'est donc les quartiers. Ce dialecte, c'est la langue de Goldoni. C'est sans doute une des plus savoureuses de toute l'Italie. Le premier sestiere, en l'occurrence, s'appelle Canareggio. C'est l'endroit, c'est l'ancien marais, si vous voulez. Canareggio, c'était les roseaux autrefois. On est là dans la partie nord de l'île, si vous voulez, avec le quartier à la fois triste et assez envoûtant du ghetto. Il faut vous dire qu'au départ, ce qui va devenir Venise n'était qu'un marécage à peine découvert par l'eau au milieu de ce golfe de l'Adriatique. On descend donc le Grand Canal, on est en gondole si vous voulez bien. Les gondoles, tout le monde connaît ça bien entendu, c'est la signature de Venise. Autrefois elles étaient couvertes, on y installait même de véritables petits salons. Et puis c'est depuis la fin du 19e siècle qu'on les a découvertes et qu'elles sont devenues ces espèces de pirogues avec cette sculpture, avec le felze. Autrefois, elles étaient très très décorées, sculptées, richement ornées, dorées. Et puis, au début du XVIe siècle, le Conseil des Dix, qui est un peu le Conseil des ministres de cette sérénissime République, a décidé, pour des raisons d'économie et pour limiter les dépenses somptuaires, a décidé que désormais on ne décorerait plus les gondoles et qu'elles seraient peintes en noir. Et donc, c'est aussi ce qui donne sa personnalité, évidemment, à tous ces canaux et notamment au Grand Canal. Le XVIe siècle, on est là à une époque, au moment de cette décision, c'est l'époque d'un grand doge, Andrea Gritti, un doge qui est mort d'une indigestion d'anguilles le soir de Noël 1538, au passage. Eh bien, ce doge, vous pouvez voir son palais, là, juste sur votre droite, c'est le petit palais Gritti, qui se trouve sur la Riva di Biagio, le quai de Biagio. Ce Biagio vivait à l'époque de Gritti, du reste, c'était un boucher, figurez-vous, auquel il arrivait de remplacer dans ses saucisses la viande de porc par de la chair humaine. Évidemment, il n'a pas pu faire ça très longtemps, on l'a condamné à mort, on l'a décapité à l'endroit où avaient lieu toujours les exécutions publiques à Venise, c'est-à-dire entre les deux colonnes de la Piazzetta, juste à côté du palais des Doges. Si vous continuez sur votre gauche après l'église Saint-Jérémia, vous avez, avec sa très jolie coupole, on revient là au XVIe siècle, vous avez le palais Labia, superbe bâtisse du XVIIIe siècle, ce palais Labia décoré de fresques de Tiepolo et qui dans les années 50 était la demeure du célèbre Besteghi, vous savez, Besteghi qui possédait par ailleurs le château de Grousset, pas très loin de Paris, et qui a donné là un des plus beaux bals d'une ville dont on peut dire par ailleurs que l'histoire n'est jamais qu'une succession de bals.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Comme surgit du fond des âges, immobile dans son voyage, mosaïque de sang et d'or, Venise a posé le décor. Tout est pour l'œil dans ce théâtre. Les eaux noires et les murs d'albâtre, illusion, lumière, fontaine, tout est là pour la mise en scène. Dans l'écrin du soleil couchant, les palais et les goélands rivalisent de poésie pour ouvrir le bal de la nuit. À l'heure où les ombres se glissent, il flotte encore dans les ruelles, l'atmosphère étrange et cruelle de Lucrèce et des Médicis. Mais déjà le soleil se lève, le rideau s'ouvre sur le verre, et c'est là que la ville explose de violet, de vert et de rose. Sous les masques des farandales, dans le glissement des gondoles, la symphonie des mousselines, des guitares et des mandolines.
Venise a posé le décor chantif du Taï sur Europe 1.
Et nous restons dans ce décor, nous continuons à descendre le Grand Canal. Alors on a passé à gauche le palais Vendramine, qui est aujourd'hui le casino municipal. Casino, c'est la petite maison, la petite casa, c'est encore un terme vénitien. Ce palais a vu mourir Wagner en 1883, à une époque où Venise accueillait toute l'élite artistique de l'Europe. Nous aurons, à propos de la Cadario, l'occasion de revenir sur cette période privilégiée qui court en gros de 1880 à la Première Guerre mondiale et qui a été, me semble-t-il, la grande époque d'une passion vénitienne qui s'était d'une véritable fièvre qui s'était emparée de l'ensemble des artistes d'Europe. Presque en face de ce palais Vendramine, à votre droite, vous avez le palais Battaggia Belloni qui est du XVIIe siècle, avec ses deux petits obélisques sur la corniche qui témoignent de la présence dans la famille d'un capitaine d'Amar, un amiral de la flotte. C'est ainsi Venise, les cygnes y pullulent, y fourmillent, et lorsque vous savez les lire, vous découvrez comme un livre ouvert, vous lisez littéralement dans l'histoire de cette cité. On trouve les mêmes ornements, ces mêmes obélisques un peu plus loin sur le quai d'en face, à gauche, le palais Fontanare Zonico, riche famille de marchands qui en 1693 devait donner un pape, le pape Clément XIII. Il faut savoir que pas mal de papes sont originaires de Venise et on dit que l'archevêché de Venise était autrefois l'antichambre du Vatican. Non loin de ce palais, sur la même rive, le palais des doges, mais alors en réduction. Vous avez une sorte de mini-palais des doges qu'on appelle la Cadoro, architecture gothique flamboyante, cette espèce de style fleuri, très vénitien, avec une forte inspiration byzantine. Au départ, cette façade était ornée de tout un ensemble d'ornements extrêmement dorés, d'où son nom de Cadoro, la maison d'or. Et sur votre droite, c'est le marché aux poissons, la pêcheira, les poissons à Venise, c'est le mulet, le bar. On mange beaucoup de dorade aussi, des rougets, des barbets, etc. Et à côté, ces baccari, qui sont ces bars à vin, ces très anciens restaurants. On touche là à la dimension très, très marchande de la ville. Vous savez qu'après tout, cette cité-là, on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, à propos de Bruges, de Venise, de Florence, etc., faisait partie de ces grandes cités marchandes qui ont été les premières cités-états où est née la notion même de capitalisme en Europe. Les institutions commerciales, bancaires, judiciaires de Venise ont fait sa force longtemps et évidemment sa célébrité dans tout l'Occident. Vous avez là deux longs bâtiments un peu tristes, les Fabriche Nuove et les Fabriche Vecchie, donc la nouvelle usine et les anciennes, ou sur la rive gauche, ce sont des entrepôts précisément, ou sur la rive gauche, le Fondaco dei Tedeschi, l'entrepôt des marchands tudesques, allemands si vous préférez, où s'est installée aujourd'hui la Poste. Il faut vous dire que nous avons tournez pendant que je vous parle. On a le Grand Canal tout à l'heure nous emmenait vers l'est. Maintenant, il nous redéporte vers l'ouest. La rive droite est au nord et la rive gauche au sud maintenant. Nous sommes là à peu près au niveau du pont du Rialto qui pendant très longtemps a été un pont de bois, ce qui le rendait fragile évidemment et sujet aux incendies. Il a été reconstruit en pierre dans les années 1590. Et puis, c'est un pont habité, vous savez. Il est couvert de petites boutiques et depuis le 19e siècle, c'est devenu le haut lieu du tourisme, évidemment. C'est un endroit un peu à éviter si vous vous promenez dans Venise parce que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, évidemment. Si vous allez vers la droite, ce pont vous conduit vers le quartier San Polo. Je peux pas vous parler de tous les somptueux palais qui se succèdent ici sur les deux quais. Du reste, un mot tout de même du palais Balbi à votre droite, un véritable manifeste de construction renaissance, toute blanche. C'est aujourd'hui le siège du conseil régional de Vénétie et c'est d'ici qu'en 1807, Napoléon, qui était devenu roi d'Italie, a assisté à des régates historiques. Vous savez que les régates, ce sont les grandes fêtes vénitiennes. Vraiment, le Grand Canal se couvre ce jour-là d'embarcations multicolores extraordinaires. Et ce sont des spectacles, il faut avoir vu ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors après le Palazzo Balbi sur la même rive, vous avez la Ca' Foscari qui est l'université et la Ca' Rezzonico avec ses plafonds de toute beauté ornés, vous savez, de petits miroirs. Cette Ca' Rezzonico chantée par Henri de Régnier. Je cite Henri de Régnier. La gondole nous balance sous le Fels et de sa main le fer coupe le silence qui dormait dans l'air marin. Le soleil chauffe les dalles sur le quai des Esclavons, tes détours et tes dédales, Venise, nous les savons. L'eau luit, le marbre s'ébrèche, les rames se font écho quand on passe à l'ombre fraîche du palais Rezzonico. richesse artistique inouïe. Alors, si l'on continue encore un peu plus loin, on tombera sur les célèbres galeries de l'Accademia, hein, cet extraordinaire musée de Venise qui donne sur le pont, construit lui aussi par les Autrichiens au milieu du 19e siècle. Vous avez bien compris qu'en tout, hein, sur ce grand canal, il n'y a jamais que trois ponts, les Scalzi, vraiment là-haut, tout au début, tout au nord de l'île, et puis le Rialto, donc, et ce pont de l'Accademia. Si vous voulez traverser ailleurs, eh bien, il vous faudra prendre ce qu'on appelle le traghetto. Le traghetto, c'est une espèce de grande gondole collective où l'on essaie de rester debout. Il vaut mieux avoir le pied marin. Ça, c'est drôle, du reste. Le pont de l'Académie, à gauche, vous emmène vers le quartier central de Venise, évidemment, ce quartier de Saint-Marc, hein, le quartier San Marco, vers le nord. Et puis, à droite, vers le sud, c'est le quartier de Dorso Duro, comme une sorte de langue de terre au sud du Grand Canal. On est là, tout près de la Salute, de la douane de mer, du débouché du Grand Canal. Je vous ai parlé du grand musée de la galerie de l'Académie. Plus loin, vous avez le musée Peggy Guggenheim dans le palais Venière dei Leoni. Si je m'attarde un peu sur ce quai-là, c'est qu'on trouve au nord de Dorso Duro le palais que nous sommes venus visiter, ce fameux Palazzo Dario, ou si on le prononce, si on le dit à la vénitienne, la Ca Dario.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous poursuivons notre promenade vénitienne et nous sommes maintenant précisément al Palazzo Dario ou la Ca Dario.
La Ca Dario. Alors justement, vous faites-vous de la prononciation italienne. C'est Catherine qui nous dit par internet qu'un petit regret, un cours de prononciation italienne aurait été utile à Franck Ferrand, dit-elle. Oui, je le concède.
C'est déjà
ça
pas mal.
Ça fait partie des langues que je ne connais pas et je le regrette beaucoup parce que Dieu sait si j'adore l'Italie. Mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Alors j'ai cité tout à l'heure Henri de Régnier. À l'automne 1899, il vient séjourner à Venise, chez la comtesse de la Baume-Pluvinel et chez Madame Bulteau, qui le reçoivent donc au palais Dario, cette sublime bâtisse de style lombard de la fin du XVe. Madame Bulteau, dit-il, me fait penser à ces fortes barques robustes qui remontent le grand canal chargées de beaux fruits. Quant à Madame de la Baume, plutôt à ces gondoles qui glissent dans les étroits rillis, mystérieuses et comme perdues. Il les a bien habillées pour l'hiver. Elle lui indique, ces deux dames, l'endroit magique de la maison, une terrasse qu'à Venise on appelle l'Altana. Cette terrasse, ce belvédère est posé sur le toit du palais. De là, je domine ces vieilles tuiles en pente et je voisine avec ces hautes cheminées dont l'une s'achève en forme de clé et dont l'autre se termine en entonnoir. Que vois-je encore ? Un coin luisant du grand canal, le dôme arrondi d'une église, puis d'autres toits, d'autres cheminées, tout cela baigné dans la clarté d'une lune éblouissante, enveloppée d'un silence profond, où je perçois cependant un murmure, qui est une présence et que je saurai plus tard être le murmure de la mer montante sur les plages du Lido. Mais ce soir, ce murmure n'est pour moi que la respiration de la magicienne endormie et le vivant soupir de sa beauté. Ce soir, je ne sais qu'une chose, en cette belle nuit de septembre 1899, c'est que ce silence, ce clair de lune, ce palais, cette terrasse vénitienne que je n'appelle pas encore une altana, tout cela, c'est Venise. Et que je suis heureux.
Extrait du concerto pour flûte de Vivaldi sur Europe 1.
Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Bourg qui a écrit « Ca Dario, la malédiction d'un palais vénitien aux belles lettres ». Ce palais qu'a découvert Henri de Régnier a été complètement émerveillé en fait par cette demeure. Ce palais est comme possédé, comme hanté, en tout cas un certain nombre de drames terribles et même de tragédies s'y sont déroulés ou en tout cas ont touché toutes ces différents occupants, Jean-Paul Bourg. C'est assez spectaculaire ce qui s'est passé. Henri de Régnier s'est intéressé lui-même au mystère de la Cadario.
Pas directement. Il avait peu de connaissances, ce qu'on possède aujourd'hui, sur l'historicité du palais, cette fameuse malédiction dont on parle depuis le XVe siècle. Par contre, il n'était que locataire, pas propriétaire des lieux. Hein. Par contre, sa sensitivité, sa manière d'être...
Vous dites ça pour expliquer qu'il ne lui soit rien arrivé.
Il est parti. Hein. Et dans les esquisses, il parle bien d'un moment de panique sur la terrasse, à un moment donné, où il a peur, où il a envie de quitter le palais précipitamment. Les personnages de pierre sculptés qui sont là depuis des siècles qui ornent la terrasse deviennent une présence vivante, comme s'il voulait lui passer un message. Il est terrifié. Il passe même plusieurs semaines malade, frappé par une fièvre. Et puis il y a les hantises dont il parle tout le long du livre. Je crois qu'il n'a aucune connaissance réelle artistique. Jean Lorrain vivait pas très loin au Palais Vénier à côté.
Mais bon, oui.
Lui, c'était plutôt les orgies décadentes. Régnier, plutôt les côtés aristocratiques distants par rapport aux choses. Un peu l'ermite sensible de Venise.
Il y a quand même eu une période là, et on va venir évidemment à cette malédiction du palais Dario. Il y a eu une période dans ces années 1880, 90 et 1900 tout à fait extraordinaire, où l'on trouvait à Venise tous les plus grands auteurs, tous les plus grands peintres aussi. On pense à Claude Monet, bien entendu, devant Saint-Marc. C'est chez Paul Morand, dans sa Venise au pluriel, qu'on découvre le niveau d'érudition, l'incroyable qualité morale et intellectuelle des personnes qui se retrouvaient là et qui avaient des conversations infinies sur la philosophie, sur la politique, sur l'histoire. C'était quand même un grand moment de la civilisation occidentale que cette Venise 1900.
Oui, c'était un carrefour important, avec son mystère surtout. Que ce soit le Thomas Mann qui en parle
Thomas
de façon
Mann,
plus sombre et plus funèbre.
La mort à Venise.
Et Proust d'une façon plus légère mais profonde par rapport à la présence enchanteresse du lieu. Il y a une magie à Venise, il y a une grande magie de la ville, bien sûr. À commencer par une ville qui n'est pas une ville. Elle est née de la lagune. C'est une ville qui est faite, c'est un labyrinthe d'eau, en quelque sorte. On est déconcerté, déstabilisé par la géométrie de Venise.
Alors, habituellement, Jean-Paul Bourg, c'est moi qui fais ce qu'on appelle le teasing, c'est-à-dire de donner aux auditeurs l'envie de nous suivre jusqu'au bout et de rester après le flash de 14h. Eh bien là, j'aimerais que vous nous disiez, dans le peu de minutes qui nous restent, quels sont, si on devait les additionner, quelles sont les grandes catastrophes qui ont touché les propriétaires de la Cadario.
Ben rapidement, à commencer par le fondateur, Giovanni Dario.
Là, on est dès le XVe siècle.
Dès le XVe siècle, 1480. Ensuite, par un diamantaire qui a pour nom Arbit Abdol, qui meurt bizarrement. On n'a pas trop de détails sur son vécu, mais en tout cas, il est mort à la Cadario, propriétaire. Ensuite, on trouve au XVIe siècle un Marco Barbaro, qui meurt en Crète, assassiné, mais qui est propriétaire de la Cadario. Au XIXe, il y a l'historien britannique Randon Brown, qui lui meurt bizarrement aussi.
On va repartir avec Randon Brown.
On a même Kit Lambert, manager des Who, Kit Lambert, qui était propriétaire d'Acadario et qui meurt d'une overdose, très lourde même, dans un des salons d'Acadario. Et puis ensuite, des milliardaires liés aux affaires politiques de l'Italie de l'époque, dont le dernier Raoul Gardini, qui s'est tiré, d'après la police, 2 balles et non pas une, ce qui paraissait étonnant. C'est en 93, hein, oui. Ce suicide-là, lié à la loge P2, aux affaires mafieuses de cette époque, en quelque sorte. L'Acadario étant à la fois un lieu, une place forte financière depuis le XVe siècle, on peut dire, où différents courants se croisent et se contredisent dans l'ombre.
Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les murs de cette maison-là doivent être singulièrement imprégnés, ils sont très chargés. C'est ce qui explique que Woody Allen, finalement, a renoncé à acheter le palais il y a quelques années.
Surtout lui, avec son côté hypochondriaque, plein de pathologies, le moindre écho sur le Lacadario, c'était énorme, la liste des morts violentes. Hein.
Est-ce qu'une véritable malédiction pèse sur ce superbe palais vénitien qui donne directement sur le Grand Canal? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir, d'en reprendre, rouvrir tous ces dossiers avec vous, Jean-Paul Bourg, juste après le flash de 14h.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
L'écrivain Jean-Paul Bourg est votre invité sur Europe 1, Franck, pour parler de Venise et de la malédiction du palais Dario.
Ce palais Dario, donc, qui se trouve directement sur le Grand Canal. On est sur la rive nord de Dorso Douro, hein, à l'opposé des Zatere. Donc, tout près, finalement, du pont de l'Accademia. Hein. C'est un endroit qui, d'ailleurs, on dit toujours que c'est le quartier français de Venise. Hein. Il y a énormément de Français qui vivent
c'est
à cet
vrai.
Endroit. Et c'est un endroit, d'ailleurs, très, très calme.
Très reposant, très reposant. Avec des ombrages. Très chouette quartier. On peut l'atteindre par l'Accademia facilement, l'Accadario.
Alors, l'un des premiers à se pencher, j'allais dire scientifiquement, à se pencher très sérieusement sur l'histoire de ce palais Dario et de son éventuelle malédiction, c'est donc un historien, Rodon Brown, qui achète le palais en 1837 pour 480 livres sterling.
Ce qui paraît, puisqu'il est rêveur.
Cela dit, avec la malédiction, peut-être qu'un jour il sera à vendre un euro symbolique, ce palais.
C'est bien possible, oui. Oui, lui, il s'installe donc, c'est pas le premier, mais c'est l'un des nombreux propriétaires d'Accadario à ce moment-là. Et lui, qui est historien, fait des recherches, historien comme on l'entend à cette époque-là.
Oui, bien sûr, c'est un érudit.
Un érudit, on va dire plutôt.
Et très, très porté sur l'occultisme et tout ça, d'ailleurs, très intéressé par ces questions.
Ce qui était Venise aussi à l'époque.
Hein. Bien sûr.
Il y a beaucoup de confréries d'illuminés. Et donc, il a fait des recherches, lui, sur les croyances de la lagune, sur les Vénètes, les premiers habitants avant que Venise soit construite, qui vivaient sur les rives de ces îlots, en quelque sorte.
Parce qu'il faut dire que Venise ne s'est formée que peu à peu, à partir du 9e siècle, hein, mais qu'au départ, c'était tout un ensemble d'îlots, ce qui va devenir une ville striée de canaux. Mais
l'ancienne,
au départ, ce sont des îles. Hein.
L'ancienne Venise historique, on pourrait dire, c'est Torcello.
C'est ça.
Point de départ, qui n'est plus qu'une. Qui est abandonné aux corbeaux et aux mouettes maintenant. Il reste quand même pas mal d'éléments quand même. Mais tout s'est concentré sur le Rialto. Et donc, il fait une enquête. On est en même temps, c'est une époque assez étrange, parce que lui fait des recherches sur les croyances vénitiennes, dont celle de ce dragon des eaux dont on parle dans les chroniques. Qu'on trouve sur la toile du Carpaccio sous une autre forme. C'est Saint-Georges combattant le dragon dans l'île Saint-Georges de Maggiore. Et bon, cette image qu'on connaît parfaitement bien. Et lui parle à Murano, dans l'église Donado, c'est ça, oui, d'un tombeau qui abriterait les restes d'un templier, enfin d'un croisé venu d'Orient, qui aurait, d'après la légende, combattu un dragon. Alors on retrouve encore cette piste du dragon des eaux. Alors quand on sait que l'Accadario est bâti sur un ancien ossuaire templier, ces enquêtes-là, bon, ne vont pas déboucher sur des pistes très très précises. Ce sont des approches secrètes, cachées de ce qu'est la ville et sa construction, puisque l'Accadario a été construit par Giovanni Dario et par un architecte qui est Lombardo, qui est aussi l'architecte du tombeau de Dante.
Et on laisse entendre, oui. Enfin, vous le dites clairement, que cette architecture, cette construction serait bourrée de symboles et quasiment d'une sorte de texte occulte, difficilement pénétrable.
Alors il y aurait, bon, après les recherches, même les guides touristiques commencent à en parler maintenant.
Oui, bien sûr. Oui.
Il y aurait donc sur la porte d'eau un talisman protecteur.
La porte d'eau, c'est donc l'espèce de porche qui donne directement sur le Grand Canal.
Exactement.
Parce qu'il y a de l'autre côté une autre porte, évidemment, qui elle donne sur une cour et sur le palais Barbaro.
Oui, sur le Campiello, qui est une petite place. Quoi. Barbaro, c'est le nom même du Campo, Barbaro. Le palais Barbaro est complètement voisin, très, très proche de l'Accadario. Et c'est l'union d'un Barbaro avec Marietta Dario, la fille du propriétaire de l'Accadario. Ça semble là que commencent les événements. Ils n'ont pas eu lieu précédemment avant. On sait que les Barbaros lorgnaient sur l'importance de ce palais, qui est un petit palais, l'Accadario. Hein. Il n'a pas la somptuosité de beaucoup de palais vénitiens. C'est une tour penchée, que Danunzio comparait à une vieille pute fardée, avec ses espèces d'arabesques moresques.
Parce que si Régnier s'est intéressé à l'endroit, Danunzio aussi, bien entendu. Oui. Hein, tous ces poètes, évidemment, ont trouvé magique cette maison très habitée.
Danunzio, bien sûr, dans le feu, il parle d'une calée, une petite ruelle qui est toute près de l'Accadario, où a vécu une princesse emmurée bien avant qu'il existe lui-même. Il fait des recherches à ce moment-là dans le feu, il en parle, c'est assez étonnant. Mais la présence on parlait de Rodon Brown, c'est ça, de l'historien anglais. Donc en même temps, il y a une recherche sur le Venise ésotérique, et en même temps, dans des pamphlets de l'époque, c'est un monarchiste, un aristocrate, il y a la vieille histoire. et qui combat de façon pamphlétaire à l'époque l'arrivée de, quand on dit socialisme à Venise à l'époque, c'était plutôt les actions terroristes, comme pour aller faire une certaine extrême gauche plus tard.
Mm-hmm. Comme en Autriche ou en Russie du
c'est
reste.
C'est pas le socialisme tel qu'on le pense aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, c'est parti pris. Alors, sa mort violente au palais Dario peut être liée à ses recherches personnelles ou au pamphlet politique qu'il avait lancé aussi à l'époque.
On dit qu'il s'est suicidé dans la salle des tableaux du palais Dario, mais c'est un suicide entre guillemets, évidemment.
Mais il faut dire que, bon, il n'y a pas le médecin légiste, n'a pas fixé précisément, comme beaucoup de morts violentes, contemporaines, non, c'est plus facile. Là, les raisons qui sont empoisonnement, crise cardiaque, ou le suicide, bien sûr, déguisé, ou pas déguisé, pour qu'il te l'emberdait où, ça, bon, il y a encore d'autres histoires. Sachant qu'il fait partie des, attention, c'est pas simplement un type, excusez-moi, pas si le coq à l'âne, qui te l'emberde en 80, qui habite la Cadario.
On y viendra à la fin, bon, si vous voulez, hein, de l'émission. On reviendra sur les morts récentes et les nouveaux mystères. Pour le moment, si vous le voulez, et juste après la publicité, nous allons revenir sur ces mythes fondateurs et sur cette histoire de cimetière de Templiers, enfin de d'ossuaire de Templiers et de bêtes, enfin de...
Oui, qui seraient dans les sous-bassins. Alors la recherche, alors voilà, les questions...
On y vient si vous voulez, Jean-Paul Vaux, juste après la publicité.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux.
C'était l'occasion jamais de diffuser Charles Aznavour sur Europe 1, que c'est triste Venise. Les paroles sont signées Françoise Dorin.
Et oui, que c'est triste Venise et que c'est beau Françoise Dorin que nous saluons, et Charles Aznavour aussi, si l'un ou l'autre nous écoute. Maïté nous écrit via internet « Buongiorno ». Je suis une folle amoureuse de Venise, qui est mon paradis, et elle nous propose de faire un petit tour sur son blog qui s'appelle mavenise.blogspot.com, mavenise en un seul mot, .blogspot.com. Ces titres de blog sont toujours un peu barbares, mais je suis sûr que le contenu est magnifique. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Bourg pour son ouvrage paru aux Belles Lettres, Cadario, la malédiction d'un palais vénitien. Et vous écrivez dans ce livre, Jean-Paul Bourg, Henri de Régnier ne comprend pas pourquoi le palais Dario agit sur ses nerfs. Il a parfois l'impression de frôler les frontières d'un autre monde dans les gestes répétitifs de tous les jours. Maria d'Arriva, la femme masquée de la salle des tableaux, le hante et le poursuit jusque dans son sommeil. On a bien compris que ce palais Dario, que l'on croit ou non à la malédiction, est extrêmement habité, que ses murs sont imprégnés d'un certain nombre de mystères et de drames. Alors j'aimerais qu'on clarifie en quelque sorte les légendes sur lesquelles s'appuie finalement cette vieille malédiction.
Alors on a oublié de parler aussi de la fameuse devise qui est gravée en latin sur la façade, qui dont l'anagramme voudrait dire, moi je suis pas latiniste, la phrase est dans mon livre, mais en traduction française, l'anagramme de la phrase, celui qui habitera ce lieu ira à sa perte. Cet anagramme tel qu'il est formé là court déjà dans les
latin, en l'occurrence.
Anagramme latin à partir de la phrase qui était sur la façade court déjà dans les chroniques de Sanudo au XVe siècle, les chroniques vénitiennes déjà dans les milieux ésotériques, on peut dire entre guillemets ésotériques, qui pratiquent des...
sur la façade on lit Genio Johannes Darius, hein, c'est ça.
C'est en gros c'est ce qui veut dire que c'est le
Dario. Le palais de Giovanni Dario. Donc
génie a construit le palais, oui. L'anagramme voudrait dire ça. Bon, ça, toutes ces formulations-là, certains les ont pris à la lettre. Et puis les meurtres et les suicides n'ont pas été inventés. Cette succession au même endroit dans Venise, il n'y a pas d'autres endroits où on peut multiplier autant de personnes avec des drames aussi
importants. Alors parlons de ce drame originel, de cette espèce d'histoire de Roméo et Juliette à Venise, en quelque sorte, cette histoire de Marietta dont vous nous avez simplement dit un mot à l'instant.
Marietta Dario, qui est la fille du propriétaire et du fondateur, du premier propriétaire du palais Dario, Giovanni Dario, qui est ambassadeur de Venise. Marietta Dario, qui est assez... on la voit pas dans les chroniques, il n'y a pas de tableau peinte par les grands peintres de l'époque, d'elle. Bon, il y a ses souvenirs, quelques lignes qui traînent comme ça. Mais sa rencontre avec Vincenzo Barbaro, le voisin tout près, le palais Barbaro est tout proche, hein. Et c'est à ce moment-là, donc, avec cette entrée des Barbaro dans le palais de Dario que commence, coïncidence ou pas, en tout cas c'est comme ça, les événements, puisque le père Dario perd sa fortune, dont il est au conseil de Venise, hein, c'est un grand ambassadeur, il a traité avec les Turcs, donc perd sa fortune, meurt violente, du père fondateur, sa fille Marietta, d'après les chroniques, meurt emmurée dans une des salles du palais. Alors comme elle est mariée avec Barbaro, j'imagine pas son mari assistant pendant des semaines à la mort de sa femme, emmurée dans une pièce. Ça me paraît bizarre et étrange. Ma théorie est différente. Mais en tout cas, il y a cette chronique-là qui parle de cette mort violente. Et lui croit récupérer le palais Dario Barbaro. Alors que dans son testament, elle le lègue en tant que location aux ambassadeurs turcs qui vont l'habiter un certain temps ensuite, avant que d'autres propriétaires arrivent, hein, bien sûr.
Vous dites qu'il y a comme une sorte de schéma qui se répète de décennie en décennie et de siècle en siècle, selon laquelle les propriétaires commenceraient par perdre leur fortune avant de perdre la vie, en quelque sorte.
Alors, pas tous, mais les trois quarts, on peut dire, sur la liste.
C'est quand même étonnant.
C'est important, oui. Ouais. Parce que ce palais est censé faire à la fois la fortune et le pouvoir de ceux qui y habitent, leur pouvoir politique.
Il faut dire que le palais à Venise, et notamment donc tous ces hôtels, ces palais qui donnent sur le Grand Canal, c'est vraiment la... On peut dire que c'est la vitrine d'une famille, hein, en quelque sorte. Hein.
Complètement.
C'est la fondation, c'est ce qui s'appelle avoir pignon, non pas sur rue, mais sur Grand Canal, en l'occurrence. Oui. Mais c'est ce qui absoit le statut d'une des familles qui participe donc au Grand Conseil, etc., à toutes ces instances de la République, de la Sérénissime République.
Et on est au 15e, et sachant qu'elles sont héritières de toute une tradition qui remonte au 12e, à l'époque où les Templiers étaient importants, il y avait une puissance sur Venise. Vous parliez du palais Vendramine tout à l'heure. On trouve sur la façade du palais Vendramine la fameuse devise des Templiers, hein. Non nobis domine, non pour nous seigneur.
Non nobis domine. Mais... Alors, nous avons en ligne Alain Vircondelet, qui connaît tellement bien Venise, qui a écrit, je les ai là sous les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ouvrages majeurs sur la cité des Doges. Bonjour Alain Vircondelet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Je disais à l'instant que ces palais vénitiens représentaient en quelque sorte la fortune et l'assise sociale des familles qui les ont fait construire.
Ben oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la grande avenue, la grande rue de Venise, c'est le Grand Canal, et chacun devait effectivement y montrer sa fortune et l'exhiber. Mais il faut voir effectivement que, il faut savoir du moins que lorsque l'on arpente le Grand Canal depuis Santa Lucia jusqu'à la Dogana, eh bien, on a effectivement le devoir d'avoir en tête que tous ces palais étaient encore évidemment, comme l'a dit Jean-Paul Bourg tout à l'heure, surdorés. Hein, il y avait des fresques, il y avait des
dorures. C'était encore bien
plus luxuriant, plus luxueux que ça ne l'est aujourd'hui. Mais en même temps, ce que je trouve assez fascinant dans cette promenade que l'on fait sur le Grand Canal, c'est qu'il y a toujours la présence totale, absolue de l'eau. Et que l'eau crée cette impression de trouble, même, je dirais, d'une certaine angoisse, et en même temps, le sentiment que tout va à la mer.
Hein. C'est ça.
Et alors, c'est ce qui fait l'étrangeté, et à la fois qui est propice aux dérives mystérieuses de la ville, c'est qu'on a l'impression quand même d'être toujours dans une sorte d'insécurité, alors qu'en même temps, on est aussi dans la sécurité du marbre, de la pierre, du minéral qui peut d'un certain côté nous rassurer, mais de l'autre, il y a toujours l'eau qui court, qui nous déstabilise. Et quand on sait que tous ces palais sont en réalité construits sur des millions de pilotis, alors évidemment, ça renforce encore ce côté tout à fait angoissant et mystérieux.
On parlait beaucoup, il y a une vingtaine, d'une trentaine d'années, de la mort programmée et annoncée de Venise. Le monde entier s'alarmait et on a l'impression aujourd'hui que les spécialistes sont un peu plus optimistes.
Bien oui, parce que d'abord il y a énormément d'argent qui a été injecté dans la cité et qui fait que des travaux absolument faramineux, pharaoniques ont commencé, et des projets encore plus forts et plus importants.
On peut saluer d'ailleurs Jérôme Zisnis, hein, qui est récemment encore organisé à Paris un grand raout pour sa fondation de Sauver Venise, bien sûr.
Mais tout à l'heure, nous parlions pour revenir au Palazzo Dario, ou du moins à la Ca' Dario, il y a encore un dernier, peut-être que Jean-Paul Bourg n'a pas évoqué, mais qu'il a dû certainement, j'ai pas lu son livre, que je vais m'empresser de lire, mais sur la relation avec Monet et sa femme, Alice Ourchadé. Oui. Et vous le savez, Monet a peint 4 tableaux de la Ca' Dario qui sont absolument magnifiques et que Alice Ourchadé trouvait absolument bouleversant par leur moirure, par cette impression de à la fois très proche, très propre à Monet, de liquide, d'impression liquide que donnent ces tableaux. Et on sait que, sitôt après leur retour, Alice Ourchadé a commencé à être très très malade. Oui. Et qu'elle en est morte deux ou trois ans après.
Décidément.
Et il y a donc de la malédiction qui continue encore.
Si j'ose dire, vous apportez de l'eau vénitienne à notre moulin, Alain Vircondelet. Voilà. Merci infiniment. Je ne sais quel ouvrage citer parmi tous les beaux livres que vous avez consacrés à Venise. Les derniers, Venise et son histoire, chez Flammarion. Oui. Et puis Venise, un art de vivre, également, chez Flammarion, bien entendu.
C'est ça.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Au revoir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Extrait de la bande originale de Tout le monde dit I love you de Woody Allen.
Woody Allen, grand amoureux de Venise lui aussi et qui donc dans ce film a consacré de très très belles séquences à Venise. Alors il a renoncé, Woody Allen, à acheter le Palais Dario. Il n'est pas le premier. Dans les années, en 1970, c'est le grand célèbre ténor Mario Del Monaco Stefano Del Monaco qui avait refusé de l'acheter parce qu'il avait finalement cédé, il était prêt à l'acheter, il prend sa voiture pour aller signer les papiers et la voiture s'en va au procès. Donc là, il se dit non quand même, il ne faut peut-être pas, tenter le sort.
Ça, Woody Allen est au tout courant ce genre de choses. Woody Allen, c'est en 96, la chape résumée.
Alors, si l'on reprend les victimes, si je puis dire, récentes de la maison, dans les années 50, c'est un Américain qui s'appelle Charles Briggs. Qui vit dans le palais Dario avec son amant. Il est homosexuel et on va retrouver donc son amant mort dans des conditions atroces.
Exactement.
Lui a disparu.
Il a disparu. Et on le retrouvera lui mort aussi dans une chambre au Mexique, très loin de Ca' Dario, assassiné. Bon là c'est une piste, c'est un cul-de-sac. On a les éléments, mais les raisons réelles. C'est un des seuls personnages qui échappe un peu à la logique de l'histoire parce qu'on comprend pas pourquoi. Sinon que c'est le propriétaire de la Ca' Dario et qu'il y a un drame épouvantable là déjà aussi.
En 70, le palais était encore la propriété du comte Filippo delle Lanze.
Oui, milliardaire lui aussi, mais un passionné, un fou d'archéologie et de Venise. Et lui, il meurt pendant la fête du Rédempteur à Venise en juillet 70, d'une manière assez curieuse, parce que bon, il est homosexuel en même temps aussi, lui, bien sûr. Mais bon, la servante le verra le même soir. Des témoins le verront traîner dans Venise.
Avec un jeune homme blond dont on pense savoir l'identité, en fait.
Complètement vêtu de gris, d'après la servante. Et au matin, elle retrouve le propriétaire, son maître, donc, le crâne fracassé par une statuette du salon. Donc, le meurtrier.
C'est presque un cluedo, là.
Oui, le meurtrier n'est pas venu avec une arme extérieure pour tuer. Il s'est servi d'un élément qui était présent dans la pièce. Ce qui justifierait la piste du crime passionnel. On prend le premier objet qui tombe sous la main. Mais il me semble personnellement que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On rentre là dans des propriétaires qui sont à la fois des milliardaires et des hommes de pouvoir, hein, déjà. C'est pas simplement des ermites qui vendent leur argent, le far niente de Venise. Ils sont actifs financièrement dans Venise.
Alors, vous avez tout à l'heure cité le nom de Keith Lambert en 1972. Lui, c'est le manager des Who. Et lui aussi, décidément, il lui arrive de méchantes histoires.
Il achète le palais d'Ayong en 72. Pour en faire une sorte de comme je disais, de Graceland vénitien dans sa folie. Oui. La folie de cette époque, avec l'acide, les drogues, etc. Kate Moon, le batteur, venait souvent à la Cadario. C'est l'époque où on voyait Keith Lambert qui avait peint sa gondole en bleu pour provoquer un peu les vénitiens. Bon, ce sont des dérives hallucinées de Keith Lambert dans Venise, des grandes soirées orgiaques qu'il donne dans la Cadario. Donc, comme il savait que le précédent propriétaire était mort violemment, pendant une soirée, mais c'est sous l'usage des stupéfiants, on imagine, il arrive halluciné en disant qu'il voit dans la trame du tapis dans sa chambre des traces de sang et des morceaux d'os, il est paniqué. Bon, ça c'est une vision, j'imagine, provoquée par les stupéfiants, mais liée au précédent propriétaire qui le hante lui aussi. Et il meurt d'une overdose, bon, la moindre des choses pour un junkie peut-être.
Et puis, il y a ensuite cette affaire dont vous parliez, qui met directement en cause alors les grandes affaires de l'Italie à l'époque et la loge P2 notamment.
Alors, Fabrizio Ferrari, c'est celui qui ensuite, juste après le Keith Lambert des Who, qui est le patron d'une grande banque en Bavière, achète la Cadario. Lui, on le saura par les actions du juge Falcon, qu'il est lié, qu'il arrose les partis politiques en sous-main. Bon, ce sont des milliardaires. La Cadario, à ce moment-là, on sait, attention, à l'époque où Fabrizio Ferrari est propriétaire, on dit que Andreotti, chef du gouvernement italien, a sa chambre à la Cadario, oui. Kissinger aussi, ce qui prouve que c'est une place forte financière importante. Et ce personnage, lui, ne meurt pas, il perd sa fortune. Mais on retrouve sa sœur Nicoletta dans un champ près de Metz, en dehors de Venise, voiture renversée et morte.
J'espère qu'on vous a donné envie d'aller faire un tour du côté de Venise. C'est la belle saison en plus. Hein. Le mois de mai, c'est idéal pour s'y promener. Et qu'on vous a donné aussi envie de lire « Cadario, la malédiction d'un palais vénitien » de Jean-Paul Bourg. C'est édité chez Les Belles Lettres. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Jusqu'à 15h30, on va vous proposer aujourd'hui une vraie leçon de savoir-vivre, même si on sait que vous n'en avez pas besoin, Franck, évidemment. Que ce soit dans les transports, au bureau, dans les voyages ou sur Internet, on va vous proposer un tour d'horizon de ce qui se fait et surtout de ce qui ne se fait absolument pas en société. Retour également sur la valeur politesse mise à mal depuis la Révolution. Ça sera notre spéciale dédicace Franck Ferrand. Et enfin, savez-vous que dans certains pays, complimenter la maîtresse de maison est un véritable outrage? C'est ce qu'on verra dans un tour du monde du savoir-vivre qui sera juste avant 15h30 sur Europe 1. Alors, je deviens lasse du savoir-vivre au quotidien. C'est le thème d'aujourd'hui. 39-21 pour nous joindre ou faustine.europe1.fr.
Il y avait jadis un très beau manuel de savoir-vivre qui était de l'usage et des étiquettes de l'ancienne cour par Madame de Genlis. On savait encore se tenir. Et puis après la mort de Madame de Genlis, eh bien, nous sommes entrés en barbarie, bien sûr.
Et bien sûr, je vous salue.
À demain, Julien.
À demain, Franck Ferrand.